On a vu des coureurs de 3000 mètres steeple ne pas passer sciemment un obstacle en athlétisme. On a vu un champion du monde de saut en longueur dont le saut a été mesuré par un juge du même pays que lui au-delà de ce qu'il était réellement. C'est devenir champion du monde et ça fait scandale.
D'abord, il y a des sports où il y a une culture du dopage et où on commence tout petit. Ces pauvres cyclistes sont toujours cloués au pilori, mais c'est vrai qu'en cyclisme, très vite, on apprend à se doper. Ils font des efforts actuellement. C'est une réalité, hein.
Commençons sur le marathon des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. À l'époque, l'épreuve est assez confidentielle. Parmi les concurrents, Fred Lord, un Américain de 20 ans. Au bout du 10e kilomètre, il n'en peut déjà plus. Mais au lieu d'abandonner, il monte dans la voiture d'un spectateur, double le peloton et descend un peu avant l'arrivée pour terminer à pied.
L'enquête du magazine américain Sports Illustrated marque un tournant dans la façon dont on parle d'Armstrong aux États-Unis. Jusqu'à présent, les Américains ne voulaient voir dans le Texan qu'une icône du sport doublée d'un rescapé du cancer. Cette image de gagneur et d'homme généreux qui donne du temps et de l'argent pour aider les malades est encore très forte. Mais le champion cycliste a aussi écopé d'un surnom nouveau dans la presse. Armstrong est devenu Lie Strong, le gros menteur.
La portoricaine Madeline de Jésus qui a demandé à sa sœur jumelle de courir à sa place parce qu'elle s'était blessée.
Le célèbre coureur Fred Lors remporte le marathon, bien avant tous les autres. Il a célébré sa victoire jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il avait parcouru 17 km en voiture.
Il trichait au début, il prenait le train. Ou alors ils accrochaient des fils à un pare-choc de voiture.
Kylian Mbappé a fait semblant de marquer de la tête.
Néron avait soudoyé les organisateurs pour remporter les Jeux, afin qu'ils puissent y participer. Il aurait même forcé à ajouter l'art comme événement sportif. Les résultats étaient assez prévisibles. L'empereur a gagné dans toutes les catégories. Il a même été déclaré vainqueur de la course de chars, bien qu'il soit tombé de son char dans le processus. Mais les juges ont déclaré avec confiance que si l'empereur avait pu terminer la course, il aurait été le premier.
Jordi Alba a complètement raté son tir et puis a fait semblant d'être taclé en demandant un pénalty. Roulé par terre pendant le match qu'il n'en a couru.
Non, il y a eu en effet des cas de tricherie. Il y en a souvent, bien sûr, plus maintenant, mais il y en a eu souvent. Mais notamment dans une autre compétition, le coup du bouchon, c'est dans une autre compétition, c'est dans Bordeaux-Paris. Le coup du bouchon, bah, c'est tout simplement que certains entraîneurs avaient un fil, leur disant généralement, avec un bouchon que le coureur se mettait dans la bouche, et comme ça, il pouvait l'entraîner, par conséquent, lui faire accomplir des vitesses supérieures à celles qu'il était capable d'effectuer.
Pour changer la règle du jeu, il faut commencer par savoir à quel jeu on joue, et pour le moment, on ne le sait pas. Car on s'abrite derrière un faux semblant, qui consiste à dire, pour repérer le dopage, faisons des examens d'urine. Et si le dopage progresse, renforçons les examens d'urine. Or, le secret de Polichinelle, c'est qu'avec les examens d'urine, on ne prend, comme disait quelqu'un d'important, que les imprudents ou les imbéciles. Et on ajoutait, Ben Johnson ayant été les deux, a été pris deux fois, mais c'est à peu près le seul.
Probablement trop énervé d'être tombé, Mbappé a tenté de marquer de la main.
Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on voit proliférer ? Des expérimentateurs, la plupart du temps, sans conscience professionnelle et complètement, pardonnez-moi l'expression, dingo. Et ceux-là, ils sont en train de préparer une explosion de drames et de scandales qu'on commence à voir venir. Et c'est là que je crie « hola, hola ».
L'équipe de basket espagnole remporte la médaille d'or à l'épreuve dédiée aux personnes atteintes de handicap mental. Et lorsque la photo de l'équipe championne olympique est publiée dans un journal espagnol, la rédaction reçoit plusieurs courriers de lecteurs qui affirment reconnaître des joueurs valides.
Suarez a sauvé son pays en Coupe du Monde avec cette main scandaleuse sur la ligne.
L'avenue des Champs-Élysées a retrouvé aujourd'hui son visage habituel. On a remballé les drapeaux, le podium, le 88e Tour de France a consacré hier l'Américain Lance Armstrong, vainqueur pour la troisième fois consécutive de la Grande Boucle. Mais cette année, encore une fois, on a parlé de soupçons de dopage sur le Tour. La semaine passée, les urines de plusieurs coureurs ont révélé des traces de corticoïdes, mais ils n'ont pas été déclarés dopés puisqu'ils ont pu fournir des ordonnances.
Et il y a des champions de leur... même pas de leur rue, de leur palier, qui se dopent pour battre le voisin dans une petite compétition vacharde autour d'un bois ou d'un lac où on tourne. C'est très connu.
Il y a aujourd'hui, par rapport à tout ce qui peut être utilisé comme moyen de tricher en jouant l'ambiguïté, je pense que cette année, par rapport aux trois éditions précédentes, toutes les mesures ont été prises. Maintenant, dire que le tour est propre... j'aurai la prudence de ne pas m'engager complètement.
1976, les Jeux de Montréal, épreuve de pentathlon moderne. C'est l'heure de l'escrime. L'équipe favorite est celle de l'URSS parce qu'elle compte dans ses rangs un certain Boris Onichenko, médaillé lors des deux derniers Jeux olympiques. L'équipe de l'URSS est favorite. Elle compte notamment dans ses rangs un certain Boris Onichenko, médaillé lors des deux Jeux précédents et membre du KGB. Pendant un combat, son adversaire britannique esquive un coup de fleuret. Tout le monde le voit, mais la petite lumière signalant qu'il a été touché s'allume. Branle-bas de combat, l'arme du soviétique est confisquée et on y découvre un interrupteur électronique qu'il suffit d'activer pour que la table de marque des arbitres s'allume sans que le fleuret n'ait touché. La seule chose que Boris Onichenko gagnera à ce jeu, c'est un surnom, Boris le Tricheur.
Dans un communiqué diffusé en Grande-Bretagne après cette décision de la FIFA, Thierry Henry a fait amende honorable, admettant que rejouer le match aurait été, je cite, « la solution la plus équitable ». « Je suis gêné », a-t-il ajouté, « de la manière dont nous avons gagné et je suis extrêmement désolé pour les Irlandais qui méritent vraiment d'être en Afrique du Sud ».
Corinthians a été propulsé à la tête du championnat après des révélations de tricherie. Des arbitres faussaient les résultats pour des parieurs et fin septembre, 11 matchs ont été annulés puis rejoués en une fin de compétition où les équipes comme Corinthians ont trouvé rythme et équilibre avec leur troisième entraîneur de la saison et profité des nouvelles rencontres. Dans la rencontre cruciale face au second du classement, Corinthians a bénéficié d'une erreur d'arbitrage, un pénalty non sifflé, l'arbitre s'est excusé le lendemain, mais la polémique a duré des jours et même occupé les débats du Sénat à Brasilia, presque une affaire d'État.
L'épisode Maradona, il n'a donc pas joué cette nuit, la FIFA l'a exclu définitivement, puisque la contre-expertise a confirmé la présence d'éphédrine dans ses urines. Il s'est exprimé hier soir à la télévision argentine, la voix étranglée par l'émotion, bégayant. Il a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière.
Les tricheries, j'en ai été témoin, donc il serait fou de le nier. Il est évident qu'il y a des titres de champion olympique qui ont échappé à certains athlètes au profit d'athlètes soviétiques qui normalement ne devaient pas gagner. Il y a eu des tricheries au javelot, il y a eu des tricheries au disque, il y a eu des tricheries en longueur, au triple saut, au 4x400 mètres. Alors je ne comprends pas très bien l'attitude des dirigeants de la Fédération internationale d'athlétisme qui se sont mis un voile devant les yeux en disant non, on n'a rien vu, nous. Je ne comprends pas très bien non plus comment il n'y a pas pu avoir plus de réclamations de la part de la Fédération internationale d'athlétisme et du comité olympique qui était sur place.
Il a triché, il ne s'est pas bien préparé, je ne sais pas qui l'entoure, qui lui donne des conseils comme ça, mais je pense que c'est regrettable pour lui et pour nous qui sommes des amoureux du football et pour le football en général.
Il peut également contrôler la voiture dans beaucoup de domaines, les dimensions, les largeurs, car tout est absolument réglementé, de l'épaisseur de certaines structures du châssis jusqu'à la largeur des roues, jusqu'à la dimension de la carrosserie hors tout, jusqu'à la position des ailerons, jusqu'à leur dimension eux-mêmes. Vous voyez, il y a beaucoup, jusque vous voulez également certaines définitions d'ouverture d'habitacle. Enfin, il y a beaucoup de choses réglementées, les hauteurs d'arceaux. Beaucoup de choses sont réglementées. Donc, une voiture peut être contrôlée par un expert, mais encore faut-il que ce soit vraiment un expert pendant des heures entières, car il y a beaucoup de points à contrôler, il y a des structures, des formats de sécurité à contrôler, il y a beaucoup de choses, des réservoirs d'essence qui doivent être de sécurité.
Didier Pironi a gagné sur le terrain, mais il a été déclassé pour avoir volé le départ. C'est faux, dit le jeune Français.
Si Alan Jones devait être déclassé, ce qui ferait certainement l'effet d'une bombe dans les milieux de la course automobile, c'est le Canadien Gilles Villeneuve, arrivé deuxième hier, qui serait déclaré vainqueur. Et sur le tapis vert, Jacques Lafitte prendrait donc la deuxième place.
Je suis écœuré parce que manifestement, dans un certain milieu, certains continuent vraiment à vouloir tricher. Et puis, mais en définitive, je ne suis pas vraiment surpris, car ça fait quelques semaines que j'exprimais de très vives inquiétudes sur ce qui se passait. Je crains qu'on aille droit dans le mur. Cela étant, la police et la justice s'attaquent aux filières, et ça c'est très bien, car évidemment, il ne s'agit pas uniquement de sanctionner les sportifs, mais surtout ceux qui profitent de ces systèmes, qui sont, je dirais, des systèmes quasiment mafieux, et on est la sortie du sport, on est dans la criminalité, on est dans le fait divers, c'est vraiment lamentable.
L'affaire remonte à 2008, c'était à Singapour, la monoplace Renault de Nelson Piquet Jr. se fracassait contre un mur en plein Grand Prix. Son coéquipier, Fernando Alonso, profitant des arrêts au stand des autres pilotes durant la présence de la voiture de la sécurité sur la piste, allait un peu plus tard remporter la course. Nelson Piquet Jr., il y a quelques semaines a avoué que cet accident était volontaire. C'est mon écurie qui me l'a demandé, a-t-il ajouté.
Moralement, j'ai pas volé le départ, parce que le problème qui s'est posé à moi, c'est que dans le premier départ, la lumière rouge est restée très longtemps allumée. Et c'est, pendant tout ce temps-là, on est en première et embrayé à fond, ce qui grille l'embrayage. Sur la Ligier, l'embrayage est réglé de telle manière qu'il n'y a pas beaucoup de garde. Et que si on reste longtemps embrayé avec beaucoup de tours au moteur, l'embrayage souffre beaucoup. Et au deuxième départ, mon embrayage avait déjà bien souffert. Donc. Et en attendant que la lumière verte se mette en route, la voiture avançait d'elle-même toute seule, tant que je puisse absolument rien faire, à part freiner. Mais si je freine quand la lumière verte se met en route, il y a beaucoup de risques d'accrochage. Donc ma voiture a effectivement avancé un petit peu, mais je suis absolument pas, j'ai pas embrayé du tout avant la lumière verte. Moi, j'ai fait une course dont je suis satisfait, parce que j'ai pas fait de faute, et j'ai conduit pendant un bon bout de la course au maximum, surtout quand j'ai vu que j'avais une minute de pénalisation. Donc moi-même, je me sens satisfait, je suis content de moi, il n'y a pas de problème.
C'est tout simplement parce que l'on sait qu'en Italie, il y a bien souvent, en particulier lors du Tour d'Italie, des épreuves qui ne sont pas tout à fait logiques, qui ne sont pas conformes à la sportivité. Il y a 3 ans, une étape a même été annulée. Tant les coureurs s'étaient fait pousser par leurs équipiers et tant les coureurs et les leaders avaient été poussés par ce que l'on appelle les tifosi, c'est-à-dire par les supporters. C'est une plaie du sport cycliste, mais que peut-on faire? On essaye de faire au mieux en appliquant strictement les règlements.
Le dopage est un mal coriace dans le cyclisme, même si les tests se multiplient. Dernier en date, il concerne le coureur charentais Michael Larpe, âgé de 24 ans. Il est de l'équipe Roubaix-Lille Métropole et il était contrôlé positif à l'EPO et soupçonné d'usage de stupéfiants, placé en garde à vue hier matin à Angoulême avec 2 membres de sa famille. De son côté, l'Union Cycliste Internationale a accepté d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Je peux être mis en cause aussi souvent qu'on voudra. Moi, j'ai les mains propres et la conscience parfaitement tranquille. Moi, je suis désolé, mais si certains aujourd'hui cherchent à justifier leurs funestes agissements par le comportement des instances, ils ont tort, car chaque fois qu'ils trichaient, ils le faisaient dans le dos des instances, ils faisaient tout le nécessaire pour que les instances ne puissent pas les prendre sur le fait, et aujourd'hui ils veulent retourner la charge contre les instances. Non, c'est pas un bon jeu, c'est même honteux, et j'aurai l'occasion de le dire, et très fort.
Il y a tellement de contrôles, tellement. Je discutais avec un coureur, en l'occurrence à Maël Moinard, qui vient d'être contrôlé 2 fois chez lui, des contrôles inopinés en l'espace de 15 jours. Je peux pas comprendre comment on peut encore faire pour tricher. Maintenant, on se rend compte encore qu'il y a encore des coureurs qui le font, qui trichent encore, aussi bien des coureurs français, des coureurs italiens ou autres, et qui mettent en péril certaines équipes, et notamment, bon voilà, en l'occurrence une équipe nordiste, même si c'est pas en péril, parce que c'est pas l'équipe qui est fautif. On n'est pas derrière chaque coureur, malheureusement. Il y a une équipe du Pro Tour également française qui est dans le lot avec l'affaire italienne, donc voilà. En fait, ces coureurs-là n'imaginent pas le mal qu'ils font autour d'eux.
Eh bien, l'affaire Zoutemelk, elle est très simple. À l'issue de la dernière étape du Tour de France, que Yves Zoutemelk termine à la 2e place derrière Bernard Hinault, a lieu un contrôle qui porte sur les anabolisants. Les anabolisants, en gros, le docteur Porte ne me démentira pas. Enfin, si on veut être vraiment très vulgaire au sens tout à fait grossier du terme, pour que tout le monde puisse comprendre, ce sont finalement des engrais du muscle. Ce sont une thérapeutie que l'on prend pour, par exemple, c'était des produits que l'on donnait lorsque les gens sortaient des camps de concentration et pour les faire reprendre du poids un petit peu plus vite parce qu'ils en avaient beaucoup perdu.
Qu'on puisse déterminer 6 ans après qu'un coureur comme Armstrong a été positif est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on a découvert une parade intéressante pour la lutte antidopage, c'est la congélation d'un échantillon qui puisse être analysé quand la recherche avance. Moi, je serais plutôt un partisan, même si ça coûte de l'argent, de pouvoir stocker des échantillons sur de tous mes coureurs qui sont passés au contrôle pour plus tard, éventuellement, quand nous gagnerons des courses. Même si ça doit coûter un peu d'argent, nous sommes prêts à financer le stockage d'échantillons pour éventuellement enlever toutes les suspicions sur les victoires, même si elles ne sont pas nombreuses, quoi que certains disent.
Bon, bah là, Yop Zoutemelk et son docteur, le docteur Faux, son docteur personnel, le docteur de l'équipe d'ailleurs, se sont rendus compte que Yop Zoutemelk, étant donné les efforts qui avaient été fournis tout au long de ce Tour de France, avait peut-être un petit peu trop maigri. Et pour lui redonner un petit peu de tonus, Yop Zoutemelk a donc pris un produit avec une base infinitésimale d'anabolisant.
Verratti a marqué pendant que le gardien surveillait un joueur blessé. Busquets a arrêté l'attaque avec un 2e ballon qui était sur le terrain.
Job Zoutemel, qui est victime de choix, a donc été le premier accusé de dopage. Pozzo, l'Espagnol, on l'oublie un peu, contrôle positif lui aussi, ayant abandonné le peloton du Tour de France depuis quelques jours déjà. La contre-expertise s'est donc avérée positive pour Job Zoutemel, mais Louis Capu, son directeur sportif, qui n'a pourtant cessé de mettre en doute la régularité du succès de Bernard Thévenet, est le premier surpris de l'accusation portée contre son coureur.
Quand on m'annonçait la nouvelle que Job Zoutemel était positif, le toit sera battu sur nous. Ça aurait pas été pire parce que je connais suffisamment les coureurs. Il y en a deux avec qui j'ai la complète certitude qu'ils peuvent pas, comme on dit vulgairement, se mouiller. C'est monsieur Raymond Poulidor et monsieur Zoutemelk. Zoutemelk, c'est un garçon, on peut même pas lui donner un fortifiant. Il veut rien prendre, il a toujours peur de quoi que ce soit. Alors que lui soit positif là-dedans, j'avoue que je suis très étonné.
Nous voulons tout savoir sur tous les contrôles. Que Zoutemelk soit positif, c'est un secret de polichinelle, mais il y en a bien d'autres. Il faut nous les communiquer d'ici dimanche midi. Affaire malheureusement à suivre.
Je ne veux pas accuser personne, on va encore dire que je suis de mauvaise foi. Vous voyez, hein? Mais j'avoue que je suis étonné. Un garçon comme Zoutemel, il a été au contrôle antidopage peut-être plus de 100 fois. Jamais y arriver. Vous pensez qu'un garçon comme ça est assez fou de prendre quelque chose d'interdit alors qu'il en passe de gagner le Tour de France?
Comme quoi, en ce moment, il y avait des rumeurs qui circulaient après les déclarations de Bernet sur la finale. Et basta, c'est tout. Tout ce que j'ai dit, en aucun cas il s'est parlé de joueurs achetés, joueurs vendus, je veux dire, eux c'est de l'extrapolation. Complètement, c'est la manipulation, je suis vraiment dégoûté aujourd'hui. Mais moi j'ai entendu plein de rumeurs à Marseille, je suis en vacances, j'ai entendu plein de choses. Et en parlant comme ça de tout et de rien avec les journalistes, ils sont venus à parler à eux de Marseille. Alors vous savez, ça n'est pas tellement en ce moment, il y a plein de problèmes, Bernet a parlé, et il se dit même qu'il aurait dû parler de la finale. Et point, c'est terminé.
Les tricheries ont, semble-t-il, démarré sur les chapeaux de roue, acquis à l'ami en Afrique du Sud, à 4 jours du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, une course qui sacrera le champion du monde. Le patron de Nelson Piquet, le plus dangereux rival d'Alain Prost, a tenté d'assurer à son pilote un avantage décisif. Bernie Ecclestone a envoyé en catimini la semaine dernière en Afrique du Sud du carburant plus performant. Si l'affaire n'avait pas été ébruitée, toutes les équipes, sauf Brabham bien sûr, auraient dû se contenter d'essence fournie par l'organisateur. Heureusement, Ecclestone a eu la mauvaise idée de faire transporter son précieux chargement par la compagnie aérienne française UTA. Un responsable de celle-ci a immédiatement averti Renault, qui a dévoilé la supercherie.
Et c'est là où on a découvert que Job Zoutemelk avait utilisé un produit dont on ne citera pas le nom, c'est pas la peine pour que certaines personnes ne s'empressent pas d'aller le chercher dans une pharmacie. Et on a découvert que Job Zoutemelk avait utilisé ce produit. C'est un produit qui était interdit, mais on peut tout de même se poser la question, et c'est la question d'ailleurs que je vais poser à Gérard Fort, est-ce que ce produit, pour un athlète de haut niveau, est-ce qu'il ne constitue pas en lui-même une thérapeutique?
Le stratagème de l'écurie Brabham, s'il se confirmait, est simple. Il s'agit d'utiliser une essence spéciale dont l'indice d'octane serait inférieur aux normes imposées par le règlement. Le but de cette tricherie est évident, il aurait permis de donner à la monoplace de Nelson Piquet, s'il n'avait été découvert, un surplus de puissance. Heureusement, la méfiance existe entre les écuries rivales de Formule 1, d'où la découverte par Renault de cette supercherie. Bien entendu, dans les heures qui viennent, Brabham risque de nier et de contre-attaquer. Monsieur Bernie Ecclestone est le responsable de l'écurie britannique, mais surtout le patron de la très célèbre FOCA, Association des constructeurs. Il usera sans doute de son influence et de son pouvoir pour se disculper et trouver une faille dans le comportement de ses adversaires Renault et Ferrari. Bref, vous le voyez, la guerre des nerfs a commencé à quel ami. Il faut d'ailleurs remarquer que Brabham n'en est pas avec cette affaire à un coup d'essai. On se souvient qu'il y a 2 ans, les commissaires techniques avaient découvert que juste avant les contrôles, les mécaniciens de cette écurie rajoutaient de l'eau dans la voiture de façon à atteindre les minima de points imposés. Enfin, tout récemment, on a soupçonné le système de refroidissement des Brabham. Bref, on dit souvent que les lois sont faites pour être détournées. En Formule 1, c'est souvent le cas.
C'est le problème de savoir si l'on doit le donner aux sportifs pour rétablir le taux de base des anabolisants dans le corps, ou si on doit l'interdire. Bon, actuellement, il est interdit. Là, il y a des règlements qui régissent le cyclisme. Ça figure sur la liste des produits interdits, les anabolisants. Bon, il en est ainsi, on doit se plier à la règle. Maintenant, il est prouvé que lors d'efforts prolongés, genre Tour de France sur plusieurs jours, le taux de base des anabolisants que l'on a naturellement dans le corps diminue au fur et à mesure des jours et à partir du 3e jour. Donc certains médecins sont posés la question de savoir s'il n'y avait pas besoin de ramener avec des doses justement infinitésimales de ramener le taux des cyclistes au taux normal qu'à tout sujet bien portant.
Ronaldo a fait semblant d'être poussé dans la surface de réparation. Son adversaire a reçu un carton jaune et Cristiano a obtenu un pénalty.
Donc ça veut dire qu'il y aurait eu trucage dans cette finale.
La triche est constante en équitation. Ce qu'on ne dit pas, c'est quand un cheval, par exemple, je parlerai d'un petit cas très personnel, pas même personnel, dont j'ai été témoin directement. Ce n'est pas des choses, des oui-dire et des autres choses. J'étais juge sur un cross. Et l'équitation, c'est un sport, mais c'est en même temps un commerce, parce qu'il y a le commerce du cheval qui se trouve derrière. Mmh. Donc, c'est là que ça se complique. Donc, j'étais juge sur un cross très important, mais au niveau amateur. Hein. Et à un moment, passe un jeune, un petit jeune, très sympathique, que je connaissais d'ailleurs, et il avait l'option entre deux obstacles. Et il a choisi une troisième option, c'est-à-dire de ne pas passer les obstacles. Donc j'ai été sympa, je l'ai rappelé, mais en équitation on est un peu stressé, on n'entend pas grand-chose quand on est sur le cheval. Donc il a continué son parcours. Et moi j'ai signalé, donc, obstacle non passé. Mmh. Obstacle non passé, ce qui veut dire qu'il est éliminé.
David Luiz pensait qu'il était l'arbitre et a déplacé la ligne de spray.
À un moment, en courant, le directeur du club, mmh. Et malheureusement, c'était son fils qui avait passé l'obstacle, hein, plutôt qu'il ne l'avait pas passé.
Je crois que l'affaire Zotmec peut faire du bien en général à l'ensemble de la corporation des coureurs cyclistes. Car je crois que Yop, étant suivi médicalement comme il l'est suivi par le docteur Fuchs, et c'est même en accord avec le docteur Fuchs et moi-même que nous avons décidé de lui donner ses produits.
Il me dit, mais il faut changer la feuille.
Pas moi, c'est le docteur Fuchs, mais en accord avec moi personnellement. J'ai pas peur de le dire. Et Yop a dit, je suis vraiment trop maigre. Il était descendu à 61 kilos. Je crois que c'était nécessaire que l'on fasse ce produit. Sur avis médical, je dis bien. Sur avis médical et... Comme il est suivi, de toute façon, s'il avait fait vraiment des erreurs dans sa carrière, il ne serait pas à 33 ans encore en haut haut niveau.
Ce qui est navrant et proprement inadmissible, c'est que le sport cycliste soit l'objet d'une discrimination. Je la juge, pour ma part, absolument intolérable. Je l'ai déjà dénoncé à différentes reprises. Nous ne sommes pas du tout, il faut bien le dire, partisans de moyens stimulants pour les coureurs cyclistes, mais je trouve inadmissible, en tout cas, que ce contrôle s'exerce seulement en matière de sport cycliste. Nous avons eu l'occasion de le dire à la Commission nationale du cyclisme professionnel. Je l'ai répété quant à moi à différentes reprises. Il est scandaleux, scandaleux. Moi, je prends mes responsabilités dans cette affaire. Que même au ministère de tutelle, on exerce une surveillance active que sur le seul sport cycliste. Alors que les footballeurs, les rugbymen, les tennismen, etc. ne sont pas l'objet de la même surveillance.
Sur Internet, les caricatures et les parodies à propos de la faute de main de Thierry Henry se sont multipliées. Au lendemain du match, la notice du joueur sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia affichait « Thierry Henry est un volleyeur français ».
Je pense que le mot de dopage maintenant est suranné. Il faudrait plutôt employer le mot de préparation médicale, mais c'est même pas la peine de parler de préparation biologique, il faut parler simplement de préparation médicale et savoir jusqu'à quel point un athlète de haut niveau peut prendre ou ne pas prendre en dose infinitésimale un certain nombre de produits. Voilà.
Non, vous savez, je suis pas naïf, je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on a l'ombre d'un doute sur quelque sportif que ce soit, dans quelque discipline que ce soit. Pourquoi voulez-vous que ces acteurs du monde sportif, de la scène sportive, soient tous à 100% à l'abri de la tentation du dopage, à l'abri de la tentation d'une triche comme une autre d'ailleurs, hein, le dopage. Donc non, bien sûr que non, je ne peux pas être sûr à 100%.
Vous savez, on en est encore, je crois, il faut être honnête, au balbutiement de la médecine sportive. On en est encore plutôt à rechercher, à faire des dosages, à voir comment évolue comment réagit l'organisme face à des efforts importants. J'espère que ça débouchera bientôt sur le fait de revoir justement ces listes anti-doping, parce que on parle beaucoup trop des cyclistes en tant que dopés, que drogués, tout ça, alors qu'en fait il faut voir ce qu'est ce sport. C'est un très beau sport où les hommes se livrent au maximum pendant 6 heures tous les jours, par exemple dans le Tour de France. Et on parle beaucoup trop de doping dans le sport. Alors j'espère justement que toutes les recherches qui sont conduites dans le monde entier actuellement aboutiront à nous autoriser à faire une véritable préparation biologique de l'athlète et qu'on ne sera plus limité, plus obligé de regarder la liste anti-doping avant de donner un produit pour mettre dans le nez un coureur cycliste.
Et qu'est-ce que c'est le dopage ? Le dopage, c'est une manière de tricher pour se donner un avantage par rapport à son adversaire. Quand on fait du sport cycliste, on sait que c'est difficile. Et puis je voudrais aussi souligner que le Tour de France est beaucoup, beaucoup moins difficile qu'il ne l'était il y a 20-25 ans, où on ne parlait pas à ce moment-là de Tour trop dur. D'abord, il a beaucoup de kilomètres en moins. Il fait 3500 kilomètres maintenant. Il en faisait 5000 il y a 25 ans. Il y a 2 journées de repos. Il y a des étapes de col ne font jamais plus de 200 kilomètres. Et les cyclistes professionnels, parlez-leur, demandez-leur. Enfin, faire le Tour de France, ça n'est pas quelque chose d'inhumain.
Oui, ça m'est arrivé. J'étais approché. Alors, voilà, en tout cas, je ne dirais pas où et je n'expliquerai pas les circonstances. Mais ça m'est arrivé. Et un centième de seconde d'hésitation par rapport à la proposition qu'on m'a faite. Et j'ai dit non, c'est hors de question, et puis c'était fini, quoi.
J'ai fait pour ma part une proposition au comité directeur de la Fédération française de cyclisme, c'est de refuser les contrôles tant que les autres fédérations ne les appliqueraient pas elles-mêmes. Et je continue à dire et à dénoncer ce que je considère pour ma part comme une intolérable discrimination.
On pourrait croire qu'on ne triche pas avec la mer ou avec la montagne et qu'il n'y a dans la nature aucun moyen de contrefaçon ou de plagiat. Je peux vous dire que le sujet du 7-9 du week-end a bien alimenté la discussion dans le carré du bateau entre les marins et les montagnards et les histoires se sont mises à fuser naturellement. Alors c'est tel alpiniste slovène qui a fait croire qu'il avait vaincu en solitaire la terrible fatigue sud du Lhotse en Himalaya. Quand aucun grimpeur dans la paroi ne l'a vu passer.
Moi, je serais très satisfait le jour où on me dira, au terme de telle finale de la Coupe d'Europe, qui se déroule en France, on a pratiqué le contrôle de football, bien entendu, sur tel et tel sujet. Les footballeurs viennent dire, mais il est scandaleux d'imaginer que nous puissions prendre, nous aussi, des stimulants. Il ne faut tout de même pas se moquer du monde à ce point.
C'est tel marin, l'histoire est très connue, dans la première course autour du monde en solitaire, qui s'est en fait caché en Argentine avant de se remettre dans le paquet de tête et puis finalement de se suicider incapable de soutenir son mensonge.
Conscients de la gravité du problème, les organisateurs ont décidé de placer leur propre tournoi sous surveillance. Ils ont fait appel à d'anciens joueurs et d'anciens arbitres pour observer, analyser et décrypter tous les matchs. S'ils ont le moindre doute, ils le signaleront. Tous les spectateurs et toutes les personnes accréditées ne doivent en aucun cas parier sur les matchs. Une cellule de veille informatique a été mise en place pour repérer d'éventuelles tentatives. Parallèlement, un accord a été passé avec la loterie européenne. Elle s'engage à surveiller en temps réel l'évolution des mises sur les matchs en cours. Enfin, des fonctionnaires DRG ont été recrutés. Incognito, ils sillonnent le stade à la recherche d'éventuels supporters parieurs.
Il a gagné, peut-être parce qu'il s'est dopé. Mais parce qu'il s'est dopé, 2 jours après, il a perdu le Tour de France. Il s'est effondré, Zotemelk. Alors je voudrais bien que tous les jeunes qui nous entendent reçoivent cette chose.
C'est une bombe car le dénouement a été très rapide. Après 60 secondes de combat ou de simulacre de combat, un seul boxeur est resté debout, Cassius Clay.
Et j'ai appris par ailleurs, enfin si j'en crois les différents journaux sportifs, que paraît-il dans les écoles footballistiques de jeunes footballeurs, on apprend à masquer précisément certaines manœuvres avec la main. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage de la faute habile, pas pris, pas vu, pas pris.
C'est vrai que, fort heureusement, l'utilisation des produits dopants contient sa morale, c'est-à-dire la déchéance. Et vous savez, nous voyons beaucoup de coureurs qui ont 30 ans, ou 31, 32 ans, qui sont des grands champions, et qui tout d'un coup s'affaissent. Et qui, par conséquent, ceux-là aussi, sans doute, ont commis des erreurs.
Il faudrait être au bord du ring pour s'en rendre compte. Mais si nous jugeons les faits sainement, trucage parce qu'il y a commerce. Et en effet, ce sont des boxeurs professionnels, donc à la base, il y a un intérêt financier. Mais dans le cas présent, quel intérêt, à mon sens, Clay aurait-il eu de gagner puisqu'il n'y a plus de revanche possible ?
Ce dispositif est expérimental, mais déjà très efficace. Hier, 4 spectateurs munis d'ordinateurs portables ont pris le risque de parier sur les matchs. Ils ont été exclus du stade.
Pendant plusieurs compétitions, on a utilisé, pour gagner les courses, un matériel très sophistiqué qui était construit à l'usine. Donc il y a vraiment préméditation. Il y a une tricherie totale. Vous comprenez, c'est tout un dispositif industriel escamotable. Car lorsque l'on regardait la pièce qui est à l'origine de la tricherie, on ne pouvait pas voir qu'elle n'était pas légale. Elle se déclenchait elle-même pour se mettre en position d'illégalité et donner une puissance de 20 à 25% supérieure à la voiture.
Un mensonge, une trahison de ce que devraient être les valeurs du sport. Mais pourquoi donc le sport échapperait-il aux turpitudes humaines ? Je crois aussi qu'en glorifiant un peu trop les sportifs, eh bien finalement, on crée les raisons même de cette triche.
Attention, Raymond, on a pris des produits, mais il a pris des produits qui n'étaient pas interdits, c'est vrai. Mais cette liste de produits s'allonge tous les ans un peu plus. Il ne faut pas oublier qu'on est parti avec un nombre de produits, 10, 15 produits. Aujourd'hui, on les allonge, mais on oublie tout simplement les corticoïdes, et c'est beaucoup plus grave que tout le reste.
Croyez-vous très honnêtement que dans toutes les corporations et les plus honorables, tout le monde soit ange et personne ne soit diable?